en vous remerciant tous qui êtes venus assister à cette rencontre pour présenter la Fondation Notre-Dame, je voudrais tout de suite attirer votre attention sur l'originalité de la situation, puisque à cette tribune se trouvent des personnalités que vous connaissez, que vous pourrez interroger comme il vous plaira, et dont la diversité peut vous étonner. Ce sont les membres fondateurs. Parmi eux, je tiens à remercier tout particulièrement Madame Renée Brouillet, puisque de tous les membres fondateurs, Monsieur René Brouillet est le seul qui nous ait quittés avant que cette fondation puisse être présentée au public, car elle a été créée par une assemblée, approuvée en assemblée générale du Conseil d'État il y a un an. Et puis surtout Monsieur Chirac qui nous accueille chez lui en cet auditorium du Forum des Halles, qui est notre maire. Je voudrais aussi particulièrement remercier M. Delors, président de la Commission européenne, pour avoir s'être arraché à ses occupations et être présent parmi nous. Et il me semble que ces deux personnalités résument un peu, avec tous les autres membres fondateurs, ce que j'appelais l'originalité de la situation. En effet, la Fondation Notre-Dame, son nom l'indique, est une initiative de l'Église catholique à Paris. Mais, pour en serez-vous, pourquoi une nouvelle fondation et quel est donc son objet? En réalité, elle est le reflet de la situation complexe de notre grande ville et surtout de l'Église insérée dans le tissu urbain d'une métropole qui voit venir à elle tous les problèmes qui confluent dans l'Occident et au-delà de l'Occident et de l'Europe. Mais cette capitale, cette métropole, la manière dont l'Église est amenée à la voir, c'est d'abord une vision du local. Non pas pour privilégier la base ou le plus petit en opposition à ce qui est grandes organisations ou grandes orientations stratégiques, mais parce que de fait, et ceci est un constat d'expérience, si vous êtes passé devant Saint-Eustache, vous avez pu vous en rendre compte, il y a un grand panneau qui marque soupe populaire, je ne sais plus le titre exact du panneau, soupe Saint-Eustache. Voilà, soupe Saint-Eustache. Si vous alliez vous promener dans les paroisses parisiennes, dans les communautés parisiennes, vous verriez à ce moment-là un foisonnement inouï d'initiatives de tout genre qui ont leur consistance avec des gens qui sont capables de se prendre en main, de créer des actions multiples et variées. Et ceci dans toutes sortes de domaines, dans le domaine aussi bien de ce qu'on peut appeler la solidarité que celui de la culture, que celui de l'éducation. Et ce foisonnement d'initiatives n'est pas quelque chose de récent. Ça fait partie de la tradition de l'Église et de son insertion dans le tissu urbain. Elle fait beaucoup plus qu'il n'est généralement su ou reconnu. Car chacune de ces réalités, parfois fort ingénieuses, mobilisant des gens de très grandes compétences, qui s'accrochent au terrain, qui s'attellent à, depuis, monter une pièce de théâtre dans une église dont personne n'a parlé par ailleurs, mais qui a mobilisé des centaines de paroissiens ou d'habitants d'un quartier de Paris, jusqu'à créer une œuvre artistique, des secours, de l'alphabétisation, du soutien scolaire, des soupes populaires, des aides au logement. On n'imagine pas ce foisonnement inouï, qui bien sûr est aidé par les grandes organisations, avec lesquels nous collaborons à coup sûr, aider aussi et collaborer avec les services municipaux ou les services de l'État, mais qui ont cette espèce d'autonomie, de consistance propre. La Fondation Notre-Dame intervient ainsi à la suite de ce qu'a pu révéler, en tout cas aux yeux d'un certain nombre de responsables du diocèse, les deux années qui viennent de précéder sur la marche de l'Évangile, où on a vu apparaître quantité d'initiatives de ce genre en tout domaine. Et aussi la session synodale que nous sommes en train de mener présentement pour le diocèse de Paris. On a vu apparaître ce foisonnement. Et ces initiatives de toute espèce demandent non pas qu'on les chapeaute, ni même qu'on les mette en file, qu'on les organise à leur place, mais qu'on les stimule, qu'on les conforte et qu'on les soutienne. Et elles ont souvent besoin, pour exister, un petit plus. La Fondation Notre-Dame est là comme un outil de l'Église de Paris, un outil autonome. Si les membres fondateurs sont en quasi-totalité des laïcs, je dis en quasi-totalité parce que je me trouve parmi eux, et des laïcs dont la diversité, à la fois de leurs responsabilités dans les services publics, dans l'État, dans la culture, dans l'administration, dans les affaires, montre la variété présente dans Paris, mais eux-mêmes ne sont là que comme au service, avec un tout petit équipement, au service de ce foisonnement auquel ils voudraient apporter le plus qui leur permet d'avancer et de négocier elles-mêmes leur accord ou leur coordination avec les grands organismes nationaux qui ont eux-mêmes leurs spécificités et leurs objectifs propres. Car ces initiatives sont en général inclassables. Elles n'entrent pas forcément dans toutes les catégories. Est-ce du social ? Oui, mais pas seulement. C'est aussi du culturel. Est-ce du culturel ? Certes, mais c'est aussi du caritatif. Est-ce du caritatif ? Oui, mais c'est aussi du spirituel. Est-ce de la jeunesse ? Oui, mais c'est aussi des adultes. Est-ce des pauvres ? Oui, mais il y a des riches parmi eux. Est-ce des sans-domicile fixe ? Mais il y a aussi d'autres choses. C'est cette réalité que nous connaissons bien, qui est impossible souvent à représenter à cause de son foisonnement, et qui forme, je crois, la substance réelle, la trame réelle de la vie des quartiers, des arrondissements, d'une ville, au milieu desquels nous trouvons ce réseau dense des paroisses, des associations, des communautés les plus diverses. Ainsi, le statut de cette fondation est un statut à la fois ecclésial, mais non cultuel. Et c'est une affaire très originale. Et elle est ainsi comme un outil au service du diocèse de Paris et de la ville de Paris, à sa façon, service que l'Église rend à la ville de Paris et à la nation par là même, pour faire face, aider, stimuler ces initiatives multiples qu'elle se contente de reconnaître, d'aider, d'identifier grâce à une grande diversité d'associations et de comités. Son fonctionnement est donc à la fois simple, parce qu'il est modeste, et en même temps complexe, puisqu'il vise à épouser le réel et sa diversité. Il est un stimulant et une complémentarité. Cette année, pour son lancement, la priorité sur les trois directions que j'ai mentionnées, la solidarité, la culture, l'éducation, la priorité a été donnée à la solidarité. Pourquoi ? Eh bien d'abord, je me contente de rappeler ce fait que j'ai déjà mentionné, dans la confrontation produite par ce que j'ai appelé la marche de l'Évangile, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et par le rassemblement des catholiques de Paris dans la session synodale, la place énorme prise dans leurs préoccupations par ce fait de la misère, des marginalisés, des détresses de toute espèce, tient presque la moitié du volume de ce qui est mentionné et dit. Il nous a semblé que les premières réalisations que la Fondation Notre-Dame se devait d'encourager et de proposer à l'attention de tous ceux qui vont l'aider, parce que c'est de cela dont il s'agit, c'est de solliciter leur aide, eh bien, c'était de choisir des réalisations, des projets connus, vérifiés, dont on a déjà, ce ne sont pas des projets en l'air qu'il faut ensuite entreprendre, mais ce sont des projets qui reposent sur une expérience déjà acquise, sur des hommes et des femmes qui se sont déjà engagés et sur des réalités qu'ils connaissent déjà. La Fondation veut ainsi s'appuyer sur une expérience qui n'est pas la sienne, mais cautionner l'expérience de gens qu'elle estime devoir encourager et aider à négocier leur action. Nous avons donc décidé de prendre comme premier domaine prioritaire ce que l'on peut appeler la solidarité. Et il me semble que la manière dont cela est vécu, je pense que dans un instant nous aurons le témoignage de deux des responsables de ces projets qui pourront vous répondre à vos questions, et qui sont le premier objectif proposé à la Fondation, mais qui n'est pas exclusif, vous montreront dans quel esprit ils le font et comment cette texture complexe et fine qui constitue la place solidaire de l'Église dans le tissu urbain, où elle collabore avec d'autres associations, confessionnelles ou non confessionnelles, avec les pouvoirs publics, apparaît dans toute son originalité. Je ne pourrais que terminer qu'en remerciant vivement au moment où la Fondation démarre son activité, avec une équipe tout à fait réduite, et grâce à l'investissement bénévole à côté des fondateurs, de ceux qui animent son conseil d'administration et son bureau, et je tiens à les remercier de leur dévouement, ainsi que les différents groupes de travail que nous avons constitués, qui examinent chacun des projets pour exprimer un avis autorisé, soumis au conseil d'administration de la Fondation, et qui permet aussi de cautionner, avec l'autorité qui sera la sienne, dès le moment où elle aura pris un visage public, de cautionner des projets proposés à la générosité des Parisiens. Car dans la Fondation Notre-Dame, il y a les réalités encouragées et stimulées, et il y a tous ceux qui veulent si bien s'y associer, soit par des participations financières, soit par une aide spirituelle, qui est celle de la prière et de l'engagement personnel, et aussi, parfois, les deux. Je vous remercie de votre attention.
Messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les journalistes, c'est donc bien les questions. Oui, monsieur. Oui.
Jean-Carl Lambert, Radio Notre-Dame. Est-ce que monsieur le maire de Paris aurait la gentillesse de nous éclairer sur la façon dont la collaboration peut-être va s'opérer entre les services de la ville de Paris et cette fondation, collaboration financière ou pratique ou matérielle?
À qui la question est posée?
À monsieur Chirac.
À monsieur Chirac.
La collaboration de la ville de Paris est tout acquise à la Fondation. Sinon, je ne siégerai pas parmi les membres fondateurs. Cette collaboration peut prendre beaucoup d'aspects, à la fois en termes financiers ou en termes techniques, en termes de personnel et de facilités diverses. Et je n'ai pas besoin de dire que nous ne ménagerons pas nos efforts pour aider les projets mis en œuvre par l'association. Je profite de cette occasion pour faire une très courte réflexion. C'est vrai que le problème majeur auquel nos sociétés sont aujourd'hui confrontées, au-delà du chômage, qui est un vrai drame, c'est l'exclusion, dont l'origine n'est pas seulement dans le chômage, et qui prend toutes les formes qui ont été évoquées tout à l'heure, notamment par le père Giros. On peut être un peu choqué par le fait que l'égoïsme semble être la caractéristique de plus en plus marquée d'une société qui est le fruit à la fois de la croissance puis de la crise. Et pourtant, lorsque l'on observe les choses, on s'aperçoit que chaque fois qu'on fait appel au cœur des gens, on a une réponse forte. Sœur Emmanuel, de sa retraite du Var, disait récemment que jamais la charité n'avait été aussi forte qu'aujourd'hui. Cela suppose naturellement qu'elle soit sérieusement sollicitée, qu'elle émane des pouvoirs publics ou qu'elle émane de l'ensemble de ces mouvements associatifs et avec les médias, dont on voit par des actions du type de celle du Téléthon combien elles peuvent avoir un rôle capital. Un outil supplémentaire, nouveau, qui nous permettra d'assumer mieux les responsabilités de la solidarité. Il y a un vieux poète arabe qui a dit « Fends le cœur d'un homme et tu y trouveras un soleil ». Et je crois qu'il y a des périodes où la carapace du cœur est plus ou moins épaisse et plus ou moins difficile à fendre. Nous sommes précisément dans une période, je pense, où elle est facile à fendre. Encore faut-il se doter des moyens pour le faire, et je crois que la Fondation sera l'un de ces moyens.
Merci, Monsieur Chirac. Père.
Ajouter un mot qui fait écho à ce que je vous signalais en commençant sur le foisonnement. Je suis frappé dans les initiatives ou les projets dont nous faisons les porte-parole que nous voulons cautionner. Ils mobilisent beaucoup de non-spécialistes. Ce qui me paraît très important dans ce type d'action, c'est qu'il y a les spécialistes, c'est-à-dire des gens spécialistes du droit du travail, spécialistes des psychiatres, des services sociaux, des médecins, des juristes. Et puis, il y a le citoyen ordinaire. Est-il, ne peut-il rien faire pour ceux dont nous parlons aujourd'hui et qui sont comme en marge de la société? La réponse, c'est qu'ils peuvent faire quelque chose. Je vous remercie, madame, de l'avoir rappelé, mais je peux attester que dans l'association qu'a lancée le père Giraud, comme dans beaucoup d'autres projets, qui se trouve mentionné en arrière de ce qui a été dit ce matin, il y a une foule considérable de gens ordinaires, comme chacun de nous peut-être ici, qui essayent, s'y risquent et le font. Alors, il faut bien sûr avoir des moyens de repères, d'entraide mutuelle pour ne pas se lancer dans des situations impossibles, parce que n'importe qui ne peut pas se lancer à aller sur le trottoir pour dialoguer avec des gens qui sont eux-mêmes dans des situations aussi extrêmes. Mais Patrick Giraud pourrait témoigner que ce sont ceux qui font ça sont des gens ordinaires. Et animés par la conviction qu'un être humain peut toujours parler à un autre être humain.
Autre question ? Oui.
Bertrand Gallimard, Flavigny. Le cardinal a évoqué donc le foisonnement inouï de projets. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ? Ça, c'est une première question. D'autres projets qui sont en arrière. Et deuxièmement, comment faire pour, lorsqu'on a un projet, pour s'adresser à la Fondation Notre-Dame ? Est-ce qu'il y a une procédure ? Est-ce qu'on passe par les paroisses ? Est-ce qu'on passe par d'autres endroits ?
Des exemples, j'ai presque du mal à en donner, étant donné la variété, mais c'est à titre, je fais ça comme ça sans très réfléchir. Dans le domaine d'abord de la solidarité, vous avez des groupes qui conseillent, qui essayent de conseiller et d'aider des gens au chômage pour se présenter et chercher des emplois. Ça existe, tout le monde le sait, mais encore faut-il voir que ça existe localement. Chaque jour, j'en découvre une autre dans une autre paroisse. Il y a par exemple des gens qui se sont instaurés écrivains publics, bénévolement, pour rédiger des papiers administratifs et qui, au départ, n'ont agi qu'avec leur stylo et un coin de table dans un local paroissial. Il y a tout ce qui touche la jeunesse, notamment la plus désocialisée, pour employer ce mot qui désigne une réalité horrible, puisque l'homme est un animal social. On pourrait dire déshumanisé dans ce cas. Et notamment tout ce qui touche au soutien scolaire, tout ce qui touche à l'aspect sanitaire. Je pourrais continuer de cette façon-là pendant fort longtemps. Je ne parle pas des choses les plus connues, comme accueil, repas, les gens, les malades, visite aux malades, visite aux gens les plus isolés, vieillards, tout le problème des étrangers. Nous n'avons pas mentionné ici parce que ce serait trop compliqué et trop long. Il y a toute l'Europe à Paris organisée et également le monde entier. Sachez que, par exemple, le diocèse de Paris à 103 ou 104 paroisses que j'appellerais françaises, entre guillemets, et il y a plus de 60 paroisses et communautés insérées dans la trame de l'Église de Paris qui ne sont pas ni ou linguistiquement ou nationalement françaises. Donc plus de la moitié quantitativement. Et chacune pose des problèmes spécifiques
qui chacune appelle des réponses spécifiques aussi, sur le terrain de la solidarité. Alors si je voulais énumérer les initiatives innombrables, que je dis bien innombrables, parce qu'on a essayé de les lister, on arrive très vite à 200, 300, 400, même plusieurs centaines de projets, tout petits ou déjà plus ambitieux, qui touchent tout. Alors y compris la vie culturelle, là on est dans un domaine qu'on ne peut même pas évoquer ce matin, et tout le domaine éducatif et de la jeunesse. Je m'en tiens là à ces énumérations, et pour la seconde partie de la question, je crois que c'est à M. Burgard ou à un des membres.
Volontiers. Je vais parler un peu procédure. Jusqu'à présent, les projets que nous avons examinés nous ont été présentés par des personnes qui étaient en relation avec l'archevêché et les services de l'archevêché. Il a été indiqué que le cardinal lui-même a été très, très impliqué, concerné par le lancement de cette action Tibériade dont a parlé Pierre Lannes. À l'avenir, les choses devraient être plus diversifiées. C'est ce que nous attendons de cet effort, un des résultats en tout cas que nous attendons de cet effort très large d'information dont j'ai parlé. Si à travers l'ensemble des paroisses et des communautés religieuses, les chrétiens de Paris sont au courant de l'existence de la Fondation, alors ils pourront, à travers les organismes, les associations qu'ils ont constituées, ou éventuellement d'ailleurs à partir d'idées qui leur sont personnelles et qui n'ont pas encore pris corps dans des organisations, des associations, pourront s'adresser à nous, à l'adresse qui figure sur les dépliants. Et nous entrerons en relation avec eux sans qu'il y ait une procédure obligatoire, par exemple un passage obligé par la paroisse. La paroisse peut être un relais utile, ceci peut arriver, mais n'est nullement une obligation. En revanche, nous avons pris la précaution de constituer 3 comités, un pour la solidarité, un pour la formation, l'enseignement, et un pour la culture. Ces comités nous donneront un avis sur non seulement l'intérêt, la pertinence du projet, mais aussi sur sa place dans l'ensemble de ce qui se fait déjà dans le diocèse, dans le domaine de sa compétence. Ceci nous permettra, en effet, avec des moyens qui, quel que soit le développement que nous espérons leur donner, resteront limités, d'essayer de sélectionner les projets qui seront les plus significatifs et ceux pour lesquels notre intervention, qui, comme on l'a dit, je le redis, sera toujours limitée par rapport aux besoins d'ensemble d'un projet déterminé, notre participation nous apparaîtra comme étant la plus nécessaire pour le développement de l'action considérée. Oui.
Si je me permets d'ajouter un mot, ce qui me frappe beaucoup dans tout cet ensemble de questions, c'est votre intention que la Fondation ne prend pas jamais en charge totalement un projet. Elle joue plus le rôle, ce n'est pas non plus un appoint financier, mais elle joue le rôle de cristallisateur, de stimulant, pour permettre à un projet qui n'arrive pas peut-être à démarrer ou à trouver les concours suffisants, d'avoir à la fois un apport financier et un apport technique, qui lui permettent du coup d'entrer dans une réalisation. La Fondation n'est pas opérateur direct et ne peut pas financer, ça serait démesuré, des projets propres. Mais précisément, grâce à sa mobilité et à son insertion locale, à ce réseau que j'appelle foisonnant des réalités parisiennes, elle peut se porter là où il y a un besoin, une nécessité, et où ceux qui en sont conscients et se font les promoteurs d'une action n'arrivent pas à se débrouiller ou à passer le cap de la réalisation. C'est donc une aide précise face à des organismes parfois très spécialisés ou hiérarchisés ou plus généraux.
S'il n'y a plus de questions, je ne vois plus de mains qui se lèvent. Le cardinal Lustiger va conclure notre réunion.
Conclure, c'est beaucoup dire, parce que c'est sur la présentation, je pense que vous avez bien saisi que la Fondation Notre-Dame ne se présente pas comme Minerve casquée, armée, sortant de la tête de celui qui l'enfante, mais qu'elle est balbutiante, puisqu'elle a ses structures, elle a son statut, elle a ses organismes de gestion, comme je l'ai rappelé, qui sont très légers, mais elle doit maintenant se mettre en place pour répondre aux besoins au pluriel pour lesquels elle a été fondée. Et cette première présentation, je sais que ceux qui découvriront son ambition et son intention se diront, mais voilà, nous allons pouvoir recourir à la Fondation Notre-Dame. Patrick Giros avait déjà depuis un an pensé que la Fondation Notre-Dame pourrait enfin sortir de l'ornière les projets qu'il poursuit depuis bien des années déjà. Mais elle ne peut agir qu'à la mesure où elle est connue, où elle a une identité, et surtout où elle recueille des moyens. Quant à son fonctionnement, eh bien, les principes sont posés, reste maintenant à les mettre en œuvre et à les vérifier dans l'action. Mais j'ai très bon espoir, tellement ça correspond à une situation de fait qui n'est pas concurrentielle avec les grandes organisations, puisque le propre, je le répète, de cette fondation, c'est de prendre en compte l'initiative riche, forte, diversifiée des réalités locales, qui elle-même doit négocier avec les grandes organisations. Elle est là comme médiateur, comme stimulant, comme l'ingrédient qui rend possible une réaction qui sans ça ne se produirait pas. En vous remerciant de votre attention, je voudrais seulement attirer votre attention sur un point singulier qui me gêne beaucoup. C'est que, comme je vous l'avais annoncé déjà depuis très longtemps au grand public, dès avant Noël, le pape avait attiré l'attention mondiale sur le drame qui se joue actuellement en Bosnie. Dimanche prochain, dans le monde entier, alors que nous sommes dans la semaine de l'unité de prière pour l'unité des chrétiens, dans toutes les églises catholiques du monde, on priera avec le pape pour que Dieu change et touche les cœurs des hommes, qu'ils renoncent à la violence et que la paix soit possible, en Bosnie d'abord, mais bien sûr un peu partout dans le monde où des conflits éclatent. Et il a demandé que tous les autres chrétiens qui le voudraient s'associent à cette prière dans la semaine de l'unité, s'adressant aussi aux hommes et aux femmes des autres religions et aussi à tous ceux qui, de bonne volonté, estiment qu'il y a là un effort qui dépend aussi de tous et non seulement de ceux qui sont censés prendre les décisions. Mais de plus, il a proposé que cette journée de prière soit préparée ou anticipée par une journée de jeûne. J'avais pensé, le premier, c'est ce que j'ai annoncé, que cette journée de jeûne aurait lieu le samedi. Et entre-temps, ce calendrier a été fixé, celui de la date de la réunion de la Fondation Notre-Dame, qui a prévu un buffet masqué par le rideau. Et plus tard, quelques semaines plus tard, je crois, de Rome, nous avons appris, avec le message du cardinal Etchegaray de Justice et Paix, très remarquable, qui se trouve publié dans la presse ces jours-ci, que ce jour des jeûnes, normalement, aurait lieu le vendredi. Et nous sommes ce vendredi. Alors, les responsables de la Fondation, devant mon embarras, ont transigé en disant que le signe, on n'est pas forcé de manger d'abord, mais le signe que ce buffet en tirerait quelque chose, serait un indicateur aussi de cette intention, c'est qu'il n'y aurait pas il n'y aurait que de l'eau ou que des...
Ça sera la surprise.
Je me sens vraiment en porte-à-faux le plus total. Alors pour ma part, je vais jeûner, mais enfin, je ne veux pas imposer ça à nos hôtes.
Merci à tous.